on a un Burkinabé. Burkinabé qui est de passage ici à Bordeaux, qui avait été invité par Sud Éducation Aquitaine. C'est un professeur de philosophie et il a écrit un livre dans lequel il raconte un petit peu ce qui s'est passé au Burkina Faso le 31 octobre 2014. Il avait donc, il y avait le président Blaise Compaoré, je ne sais pas si vous vous rappelez, Blaise Compaoré, c'est celui qui a assassiné Sankara. Et bon, ça a quand même perturbé le pays parce que Sankara, c'était quand même quelqu'un qui était anti-impérialiste, qui essayait de faire pas mal de choses. Il a beaucoup travaillé pour interdire l'excision des femmes. C'est quelqu'un qui, bon, avait peut-être ses défauts. Nul n'est parfait, nobody is perfect, comme dit l'autre. Mais il avait quand même a fait avancer un petit peu ce pays dans le domaine des droits et du social. Il a été donc, bien sûr, par la Francafrique, parce que je crois que Blaise Compaoré avait été aidé par la France, hein, qui maintient toujours ses néocolonies. Et donc, il a écrit un livre. Il a été invité ici à Bordeaux par Sud Aquitaine, qui nous a envoyé donc le son, et avec une interview de Maryse Cluchet, qui gentiment nous a envoyé le son. Je rappelle qu'ils ont créé un mouvement qui s'appelle le balai. Le balai, c'est pas de la danse, le balai, le truc qui balaie pour dégager tout le monde. C'est vrai que cette expression-là, elle a fleuri un peu partout dans le monde politique. Hein. Moi, j'ai un ami à Panama qui s'est présenté aux élections avec un balai pour dire on va balayer tous ces pourris. Mélenchon parle de dégager tout le monde. Arlette Laguy, à l'époque, elle a dit qu'elle allait faire le ménage à l'Assemblée nationale, même qu'ils l'ont caricaturé en femme de ménage. Bon, bref, il y a toujours cette idée quand même de balayer l'ancien monde. Et là, ce mouvement citoyen qui s'appelle le balai citoyen, eh bien, Eric, c'est auteur du livre, j'avais pas donné son nom, Eric Ismaël Kinda, donc professeur de philosophie, qui est syndiqué au grand syndicat révolutionnaire au Burkina Faso. On écoute.
Oui, c'est vrai, le balai citoyen est un mouvement politique et non un parti politique. Le balai citoyen est un mouvement politique parce que dans nos objectifs, nous ne visons pas à conquérir et à exercer le pouvoir politique, le pouvoir de l'État, mais juste pour jouer le rôle de la veille citoyenne, une certaine pression sur ceux qui gouvernent le pays, mais aussi, au-delà de la pression, faire des propositions concrètes. Le balai citoyen est un regroupement essentiellement de jeunes, étudiants, élèves. On retrouve dans ce mouvement des anciens, comme nous autres, des journalistes, des hommes de droit, des ouvriers. En fait, c'est un regroupement de personnes au profil très différent. Donc ce mouvement effectivement a été lancé officiellement le 25 août 2013 à l'occasion d'une conférence de presse publique tenue à la place de la Révolution au Burkina Faso dans la capitale, Ouagadougou. Bon, disons que c'était une première. Généralement, quand on veut lancer un mouvement, quand on veut lancer un parti politique dans notre pays, ça se fait dans des salles bien connues, souvent même dans des salons feutrés. Et là, nous avons choisi un lieu symbolique, la place de la Révolution, qui est le haut lieu de la contestation au Burkina Faso, le haut lieu des rencontres des masses populaires lorsqu'il y a un problème qu'il faut régler. Donc, pour la première fois, c'était à la place de la Révolution, à ciel, à découvert, que nous avons tenu cette conférence de presse à l'occasion, conférence publique et conférence de presse à l'occasion desquelles on a lancé officiellement le mouvement. Mais il faut dire que pour en arriver là, ce fut un long processus. L'idée de mettre en place ce mouvement est partie depuis 2011 même, en réalité. 2011, le pays a traversé une grave crise relative à la mutinerie, mais aussi relative à l'assassinat, à la mort d'un élève dans les locaux de la police au niveau de la ville de Koudou, troisième ville du pays. Donc, la mort suspecte de cet élève avait provoqué en milieu scolaire une grosse colère, des mouvements de contestation pour exiger à ce qu'il y ait la lumière et la justice sur la mort de l'élève. Et dans la foulée, donc, il y a eu aussi la crise au niveau de l'armée, et une mutinerie où des jeunes soldats voulaient voir clair dans la gestion de leurs affaires. Et ils s'en prenaient à une certaine hiérarchie militaire corrompue. Donc ça a paralysé le pays pendant quelques jours. Et le pouvoir a tremblé. Et ces événements se sont succédés. Et progressivement, donc, on a, entre copains, l'idée est partie comme ça. Il faut mettre en place un mouvement et essayer d'inventer de nouvelles méthodes de lutte. Et pendant que le projet était mis sur table entre amis pour débat, il y a eu entre-temps le printemps arabe. Et le printemps arabe qui a vu dans certains pays arabes des dictatures tomber. Et ça nous a galvanisés davantage pour aller dans le sens de notre projet qu'on était en train de construire. Et nous nous sommes dit à l'époque, bon, s'il y a eu le printemps arabe, si les Arabes sont parvenus à faire tomber des dictatures, pourquoi pas chez nous? Donc c'est donc dire que avant le 25 août 2013, il y a eu un travail qui a été fait, et le 25 août 2013 n'a été qu'une officialisation de la naissance du mouvement. Alors le mouvement est structuré de la façon suivante. Au niveau de la base, on a ce qu'on appelle les clubs cibales. Le mot cibale vient de la contraction de deux mots. Et citoyen balayeur. Bon, si vous cherchez dans le Larousse ou dans le Robert, vous n'allez pas trouver ce mot. Quand c'est un garçon ou un homme, on parle de cibale. Quand c'est une fille ou une femme, on parle de cibelle. Donc, c'est des mots qui sont propres à notre vocabulaire. Et donc, au niveau de la base, on a ce qu'on appelle les clubs cibales. Et les clubs cibales, leur lieu d'implantation, c'est dans les quartiers. Et c'est essentiellement ce qu'on appelle chez nous des mâmes de grain. C'est des groupes de jeunes qui se regroupent, qui se retrouvent régulièrement devant les concessions dans les quartiers pour prendre le thé. Et donc ce sont ces groupes qui se constituent en clubs. Et dans un quartier, il peut y avoir plusieurs clubs cibales. Et il faut entre 10 à 15 personnes pour constituer un club. Et bien entendu, et le club qui se constitue adhère à la philosophie du mouvement, adhère aux objectifs du mouvement. Il y a des démarches qui sont faites avant l'installation officielle d'un club cibale. Donc à la base, on a ce qu'on appelle les clubs cibales, et ensuite on a ce qu'on appelle les points focaux. Un point focal, c'est, on retrouve le point focal au niveau des villes secondaires. Les villes secondaires constituent ce qu'on appelle les points focaux. Et le rôle d'un point focal, c'est de susciter la création et la naissance de clubs cibales. Donc, après les points focaux, on a ce qu'on appelle les coordinations régionales. Une coordination régionale est un regroupement de points focaux. Et le point focal comprend plusieurs clubs. Et au sommet, vous avez ce qu'on appelle la coordination nationale, avec 15 membres ou 15 coordonnateurs, à laquelle, coordination nationale à laquelle moi-même je fais partie. Donc il y a 15 coordonnateurs, et la coordination nationale est mise en place par l'Assemblée générale. Il se tient régulièrement ce qu'on appelle les assemblées générales ordinaires. C'est l'Assemblée générale qui décide, l'Assemblée générale, les démembrements du mouvement participent à l'Assemblée générale. Et c'est l'Assemblée générale qui désigne les 15 coordonnateurs pour un mandat de 2 ans. Au départ, c'était un mandat de 2 ans. Et il y a eu une Assemblée générale qui a fait des amendements et on a estimé qu'il faut aller à 3 ans. Donc c'est la coordination nationale qui est, si vous voulez, l'organe dirigeant de notre mouvement. Et il faut ajouter qu'en dehors de Burkina Faso, nous avons ce qu'on appelle des ambassades cibales. Les ambassades cibales, on les retrouve un peu partout quand même. On tente de s'implanter, nous tentons de nous implanter de mieux que nous pouvons hors du pays. Et en France, ici, et précisément à Paris, on a eu une ambassade Siba. En Italie, on en a. En Espagne, on en a. Aux États-Unis, on a une ambassade Sibal. En Allemagne, on a une ambassade Sibal. Et sur le continent africain, bon, on tente de nous implanter dans des pays frères sur le continent africain, mais pas, c'est avec beaucoup de difficultés. Et là, j'ouvre une parenthèse. Depuis, on tente d'installer une ambassade Sibal en Côte d'Ivoire, pays voisin du Burkina. Mais vous savez, ce n'est pas simple parce que Blaise Compaoré, depuis sa chute, a trouvé asile en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire est devenue son pays d'accueil, donc ce n'est pas facile. Et il y a beaucoup de forces hostiles à notre mouvement qui se retrouve en terre ivoirienne, ce n'est pas évident. Donc voilà un peu présenter notre mouvement. Et j'allais terminer là-dessus en indiquant que le mouvement, le ballet citoyen, se réclame de l'idéal de Thomas Sankara. C'est important de le souligner. Thomas Sankara, qui fut ce président révolutionnaire qui a dirigé le Burkina pendant 4 ans, de 1983, août 83, au 15 octobre 1987. Voilà pour ce qui est de la présentation du ballet citoyen. Que voilà, mouvement né il y a 5 ans, qui a joué aussi sa partition pendant l'insurrection populaire qui a conduit à la chute de Blaise Compaoré.
Voilà, du coup, ça nous conduit à une deuxième question sur la situation depuis l'insurrection, peut-être, ou peut-être que tu feras des rappels historiques, je n'en sais rien. La situation politique, économique et sociale actuellement au Burkina, puisqu'il y a eu cette insurrection populaire au mois d'octobre 2014. Donc, qu'est-ce qu'il en est ?
Oui, la situation du Burkina, à l'heure qu'il est une situation complexe. C'est complexe parce que nous sommes 4 ans après l'insurrection populaire qui a fait chuter un régime qui avait duré 27 ans, qui avait juré le pays pendant 27 ans. Et il faut dire que nous sommes dans une situation où tout est pratiquement à refaire. Tout est pratiquement à refaire. Au plan social, au plan économique, au plan politique, les attentes sont nombreuses. Il y a eu des élections après l'insurrection. Ces élections ont porté à la tête du pays un parti, le MPP. Et le MPP qui est constitué essentiellement de leaders qui ont travaillé aux côtés de Blaise Compaoré pendant 27 ans. Ils sont au pouvoir, ça fait bientôt 3 ans. Je dirais même 3 ans. Et 3 ans après, le constat que l'on peut faire est que les attentes du peuple burkinabé sont largement déçues. Et le pouvoir en place se montre incapable de répondre aux attentes fortes de la population. Et parmi ces attentes, on a les questions judiciaires. Chez nous, il y a des dossiers judiciaires très emblématiques et par rapport auxquels le peuple exige justice et lumière, vérité sur ces dossiers. Je parle notamment du dossier d'Abou Boukari, cet étudiant en 7e année de médecine qui a été lâchement assassiné dans les années 90 par les hommes de la garde prétorienne de Blaise Compaoré. Il y a le dossier Norbert Zongo, ce journaliste d'investigation qui à lui seul était en quelque sorte le porte-voix des sans-voix. À lui seul, il menait un combat sans concession en faveur des masses, en faveur de toute la population du Burkina Faso. Il a été lâchement assassiné le 13 décembre 1998. Et jusque-là, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de justice sur son assassinat. Et le régime de Blaise Compaoré s'est employé pendant plus d'une décennie à étouffer l'affaire. Et à la faveur de l'insurrection, l'affaire a refait surface. On a rouvert le dossier et il y a des enquêtes qui ont été menées. Le dossier a été instruit et on attend les mois. J'ose espérer que les mois à venir, il va connaître un jugement, un dénouement. Et il y a aussi l'emblématique dossier Thomas Sankara, président du Burkina Faso, qui a été assassiné aussi. Donc il y a plein de dossiers de crimes de sang par rapport auxquels le peuple attend justice, vérité et toute la lumière. Et il y a aussi et surtout les dossiers de crimes économiques. Pendant 27 ans, on a assisté à une sorte de pillage systématique des ressources du pays et à une mauvaise répartition même des ressources, des richesses du pays. Et je me demande même s'il y a eu répartition. S'il y a eu répartition, j'ai du mal à croire même qu'il y a eu répartition. Pour parler de mauvaise répartition, il faut qu'il y ait eu effectivement une répartition. Mais là, je ne suis même pas sûr qu'il y ait eu une répartition. Donc, crime économique et crime de sang, voici des attentes fortes. Le peuple s'est insurgé contre l'injustice, l'impunité, la gabegie, la malgouvernance. Et malheureusement, 3 ans après l'insurrection, nous n'avons pas, en tout cas, on ne voit pas de signaux forts que ça change. Et au-delà des attentes et des aspirations légitimes du peuple burkinabé, il y a que nous sommes dans un contexte d'insécurité grandissante dans notre pays. Alors, depuis la chute du régime de Compaoré, on assiste régulièrement à des attentats perpétrés à Ouagadougou, au cœur de la capitale. Et vous avez certainement suivi les attentats contre des restaurants à Ouagadougou, le restaurant qui était tenu par un expatrié européen, le Cappuccino, a été victime d'un attentat djihadiste. Après le Cappuccino, il y a eu le restaurant Aziz Istanbul, qui était tenu par des Turcs, qui a été victime d'un attentat djihadiste. Et cette année, en 2018, exactement le 2 mars 2018, il y a l'état-major de l'armée burkinabé qui a été victime d'attaques djihadistes. Et on assiste à des attaques à répétition au niveau des postes frontaliers du Burkina. Avant, c'était au niveau de la zone sahélienne qui fait frontière avec le Mali et le Niger. Et les informations que nous avons est que les forces françaises Barkhane installées au Mali mènent des opérations et l'étau se resserre sur les groupes djihadistes qui fuient, qui traversent la frontière et qui se retrouvent de l'autre côté au niveau du Burkina Faso et mènent leurs attaques. Donc le Sahel, la zone sahélienne du Burkina regorge du groupe djihadiste et voilà, ça crée une insécurité. Et des écoles sont fermées parce que les instituteurs, les enseignants sont menacés et ont été priés de quitter la zone. Et le personnel soignant aussi a été prié de quitter la zone. Donc on a beaucoup de services publics qui ont été fermés parce qu'il y a l'insécurité. Alors le pouvoir en place a tenté de reprendre les choses en main, mais avec des résultats vraiment très mitigés. Et ces derniers jours, il semble y avoir une certaine accalmie dans le Sahel. Et apparemment, les groupes qui attaquent le pays ont changé de stratégie. Maintenant, c'est l'est du pays l'est du pays qui fait l'objet d'attaques récurrentes, les postes de police et de gendarmerie, les postes des agents des eaux et forêts font l'objet d'attaques. On pose des mines, des mines qui explosent, des bombes qui explosent lorsque les forces de défense et de sécurité tentent de ratisser dans la zone. Ils sont confrontés à des mines qui font exploser les véhicules. Y a ceux qui dirigent aujourd'hui ont leurs proches, leurs anciens copains, je dirais même leurs amis qui sont impliqués dans des dossiers emblématiques. Voilà. Et il ne faut pas être naïf en pensant qu'ils vont traduire facilement ces gens et vont laisser facilement la justice faire son travail. Donc tout est une question de rapport de force. Et je pense, moi, qu'il faut maintenir la pression pour contraindre le pouvoir actuel à laisser la justice faire son travail, à laisser la justice poursuivre tous ceux qui sont trempés dans les dossiers de crimes de sang et les dossiers de crimes économiques.
J'ai envie de te poser une question qui découle de ce que tu viens de dire. Après cette insurrection populaire, des élections sont organisées un an après. C'est ce MPP qui vient au pouvoir, alors que ce sont les mêmes que ceux du régime de Blaise Compaoré. Enfin, hein, ils avaient quitté le parti un an avant. Et pourtant, il y a une multitude de partis politiques au Burkina. Il y a des éléments d'explication à ça?
Oui, c'est vrai, cela peut paraître étonnant, mais pour un Burkinabé averti, ce n'est pas étonnant. Il y a une multitude de partis politiques, mais vous savez, il y a des partis politiques qui sont nés dans des salons ou bien sous des hangars qui ne peuvent même pas vous remplir, des partis politiques qui ne peuvent même pas remplir une salle pouvant contenir 20 personnes. Donc, il y a parti politique et puis parti politique. Alors, il se trouve que le parti politique au pouvoir actuel, le MPP, est composé de gens, ses leaders, ses créateurs ont travaillé avec Blaise pendant 27 ans. Et ils ont pu bénéficier et emmagasiner des ressources grâce au pillage qui était organisé. Donc, du coup, et c'est un parti qui a suffisamment eu les moyens financiers et matériels pour battre campagne et aller jusque dans les profondeurs du pays où nous avons un électorat essentiellement rural, des populations qui ne comprennent pas forcément les enjeux. C'est pas qu'elles sont idiotes. Mmh. Voilà, la politique, on peut être intelligent, mais quand on est devant la politique, c'est une autre chose. Alors, qui ne comprennent pas forcément les enjeux. Et ces gens ont eu les moyens financiers et matériels pour aller dans les profondeurs du pays, pour battre campagne, pour distribuer des présents, pour distribuer de l'argent, pour distribuer des vivres. C'est des professionnels des campagnes électorales. Ils savent jouer sur la misère matérielle des populations. Et c'est ce qu'ils ont fait exactement. Et il faut dire que ceux qui sont instruits, ce qu'on appelle la classe des intellectuels au pays, les votants, c'est pas eux. Ceux qui savent lire et écrire, qui sont instruits et qui connaissent mieux les enjeux politiques, c'est pas eux qui élisent le président, c'est pas eux qui choisissent les députés. Ce sont les braves paysans, c'est le monde ouvrier, ceux qui n'ont pas une maîtrise de la chose politique, c'est eux qui désignent. Voilà un peu. Et pendant les campagnes, dans les grandes villes comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, beaucoup d'hommes politiques ne perdent même pas leur temps dans ces localités parce qu'ils savent qu'ils ont affaire aux intellectuels, aux personnes instruites, qui sont capables de prendre leur argent, mais le jour des votes, ils ne vont pas aller voter, ou même s'ils vont voter dans l'urne, et ils ne vont pas forcément mettre dans l'urne le bulletin du parti de celui qui leur a donné de l'argent ou bien bon, un quelconque avantage. Donc, ce qui explique que ce parti est arrivé facilement au pouvoir. Il y a, dans cette pléthore de partis politiques, vous avez des partis politiques qui peuvent être sérieux avec un bon programme, de très très bonnes idées. Maintenant, si vous avez de bonnes idées et que vous n'avez pas les moyens matériels et financiers pour battre campagne, pour vendre vos idées, c'est compliqué. En face, vous avez une machine électorale pratiquement impitoyable. Voilà. Voilà pour répondre à votre question.
Et la position des syndicats dans ce contexte-là, comment tu pourrais la décrire ?
Oui, je pense que les syndicats ont une place importante dans notre contexte et place importante dans notre contexte. C'est indéniable que sans les syndicats, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas régler dans notre pays, notamment les questions judiciaires concernant le pillage économique, les crimes de sang. Les syndicats ont toujours été en première ligne, le combat politique, le combat sociopolitique au Burkina Faso. Et ça, ça date depuis les indépendances du pays en 1960. Et d'ailleurs, c'est le lieu de le dire ici. Et ce qui s'est passé au Burkina Faso en 2014, l'insurrection populaire qui a fait tomber Blaise Compaoré, en fait, c'est une répétition grandeur nature. Déjà le 3 janvier 1966, il y a eu une insurrection populaire qui a fait tomber le premier président civil démocratiquement élu du Burkina Faso. C'était l'œuvre des syndicats. Et aujourd'hui encore plus que jamais, les syndicats ont une place importante. On ne peut rien faire sans eux. Et ils le regroupent en tout cas. Les syndicats regroupent des personnes très averties des questions politiques, très averties des enjeux. Et aujourd'hui, par rapport aux différents problèmes que je viens de citer, les syndicats, ils veillent, ils alertent, ils font la pression, ils exigent, et leur place, en tout cas, est fondamentale. Et je vous ai dit qu'en matière de gouvernance, ça ne bouge pas. Or, vous savez que tout bon syndicat révolutionnaire ou progressiste, ne peut pas et ne doit pas fermer les yeux devant ce qu'on appelle la mal-gouvernance et l'impunité. Voilà. Donc les syndicats, ça fait partie de l'histoire de notre pays. Et je ne peux pas concevoir un changement au Burkina Faso, en tout cas sans l'apport des syndicats. En tout cas, c'est impensable. Je ne sais pas quand est-ce que cela peut venir, mais en tout cas, pour le moment, je ne pense pas que nous soyons en mesure de faire changer les choses profondément en mettant de côté les syndicats.
Si on revient sur un événement plus récent, la visite de Macron à Ouagadougou, c'était la première étape de sa tournée africaine. Donc il a fait un discours et tu peux nous dire comment ça a été reçu, selon toi, au Burkina ?
Ouais, mal reçu. Mal reçu. Et pour des esprits avertis, et pour les esprits compétents, ce qui a été débité à Ouagadougou, il n'y a rien de surprenant. Il est venu en terre conquise. Il avait promis de rompre avec un certain paternalisme, avec le néocolonialisme même. Mais dans son comportement, on a vu qu'en réalité, rien n'a changé. Je revois cette scène où l'étudiant burkinabé s'est plaint du fait que dans la salle, il n'y a pas la climatisation, il manque aux étudiants la climatisation dans les salles. Et Macron qui répond que ce n'est pas à lui que l'étudiant devait poser la question, mais au président Roch Kabore qui devait poser la question. Et entre-temps, pendant que le président Macron s'adressait aux étudiants, le président Roch Marc-Christian Kabore s'est levé de son siège pour sortir hors de la salle, je ne sais pas, il sortait faire quoi. Et toujours est-il que Macron a dit, voilà, il est sorti, c'est pour aller réparer les climatiseurs. Vous voyez, c'était ce qu'on a appelé une plaisanterie de mauvais goût. Voilà, on ne sait pas si l'inverse est possible. On ne sait pas si Europe peut faire ça à Macron. En tout cas, ce discours Nous le savons très bien. C'est peut-être les mots qui vont changer. C'est les mots qui ont changé. Le contenu, c'est pratiquement la même chose. C'est une façon. Il est venu en fait dire, moi, voilà ce que vous devez faire. Si vous voulez vous développer, voilà ce que vous devez faire. Sarkozy l'a dit. Sarkozy l'a dit. Macron l'a dit, l'a redit également, de façon très subtile, en choisissant les mots. Mais personne n'est dupe. Personne n'est dupe. Nous savons toujours que la France-Afrique fonctionne toujours à merveille. Et c'est la forme qui change. Le contenu ne change pas. C'est toujours une affaire de réseau. Et nous savons que le président Macron a fait appel à toute une équipe au niveau de l'Élysée qui est chargée de travailler sur les relations franco-africaines. Et c'est pratiquement la même chose que faisaient ses prédécesseurs, FOCA, le réseau FOCA, le réseau Mitterrand avec son fils, le président Chirac qui réanime le réseau FOCA. Voilà, ce groupe de personnes que le président Macron a rassemblé au niveau de l'Élysée pour réfléchir sur les relations franco-africaines. C'est le prolongement de la France-Afrique, c'est clair, c'est net. Donc, pour me résumer, il n'y a pas eu de surprise. Pour les esprits avertis, on ne s'attendait pas à quelque chose de neuf. Et par moments, on a même vu un président Macron qui s'emploie à ridiculiser même ses interlocuteurs, l'auditoire. En tout cas, on a vu nos étudiants qui ont été humiliés par le président Macron. Et un fait très important qu'il faut relever, les étudiants qui ont eu accès à la salle ont été sélectionnés. Il y a eu un travail de sélection qui a été fait. On craignait que dans la salle, il y ait une certaine rébellion. Car, comme vous le savez, la jeunesse burkinabé est une jeunesse vaillante et qui ne se laisse pas marcher dessus. Et on craignait que dans la salle, on ait affaire à des jeunes très radicaux, susceptibles en tout cas de verser la figure du président Macron à terre. Mais disons que tout ça, bon, c'est triste. C'est triste quand je vois qu'en réalité, les peuples ne sont pas opposés. Les peuples ne sont pas opposés. Bon, s'attaquer à Macron, ce n'est pas dire qu'on s'attaque à la France. La France, je pense, compte beaucoup de citoyens honnêtes et sincères, des gens qui ne cherchent qu'à vivre honnêtement et gagner honnêtement leur vie. Bon, peut-être que le problème, c'est que il n'y a pas une certaine ouverture vis-à-vis des autres pays du monde. C'est peut-être là le problème. Sinon, moi, je pense que, tenir un discours devant un dirigeant français, un discours radical, ce n'est pas dire qu'on est contre la France, on est contre le peuple français. Mais on est contre une certaine politique de la France. On est contre la façon dont l'Élysée organise les rapports entre la France et les pays africains. En fait, c'est ça. Et je crois d'ailleurs que le président Thomas Sankara l'avait bien relevé, qu'en réalité, les peuples ont un ennemi commun. Ce sont les mêmes qui exploitent les peuples en Afrique, ce sont les mêmes qui exploitent les peuples en Europe et en Amérique. Et par conséquent, nous avons un ennemi commun. Et cet ennemi commun, c'est l'ultralibéralisme, c'est le capitalisme à outrance qui écrase tout sur son chemin. Et voilà, c'est la réalité. Et je pense que pour que les choses bougent, il va falloir que les peuples s'ouvrent. Que les peuples s'ouvre et aille au-delà de ce qu'on laisse officiellement comme discours au plan politique et au plan national. Et je pense qu'en s'ouvrant, on va comprendre mieux les difficultés des uns et des autres, on peut dégager des perspectives et ne plus laisser seulement les politiques décider du sort des peuples et de l'humanité tout entière. Voilà ce que je pouvais apporter comme réponse à votre question.
J'ai une question pour revenir sur le discours de Macron. Un étudiant lui a posé la question du franc CFA. Il a répondu quasiment que c'était un non-sujet pour lui. Quelle est ton analyse
Oui, la question du franc CFA a été posée. Le président Macron a dit, voilà, si les Africains voulaient avoir leur propre monnaie, ils étaient entièrement libres de le faire. Et que la France ne ferait rien contre un projet de monnaie africaine. Bon, c'est bien beau, c'est un discours, mais nous savons au fond que la France est toujours employée et elle va toujours s'employer à faire en sorte que le franc CFA ne disparaisse pas. C'est clair, c'est net. Le discours officiel des politiciens français qui gèrent le pouvoir est que ils ne font rien. C'était aux Africains. Ils ne font rien pour empêcher les Africains de créer leur propre monnaie. C'est aux Africains de définir leur propre monnaie. Le discours officiel, c'est ça. Mais derrière ce discours officiel, il y a une opposition farouche à la création d'une monnaie africaine. Ça, on le sait. Et il y a des dirigeants africains qui ont payé de leur vie pour avoir tenté l'expérience. Il y en a qui ont payé leur pouvoir pour avoir tenté l'expérience. Le cas de Ahmed Sékou Touré. Le président guinéen, Sékou Touré. Sékou Touré a lancé le franc guinéen, il a quitté le franc CFA. La suite, on la connaît. On la connaît. Et pour faire payer au président guinéen son courage, et bon, voilà, d'aucuns parlent de témérité. Et le gouvernement du président Giscard d'Estaing à l'époque avait, par des réseaux, inonder la Guinée de fausses monnaies pour mettre à genoux l'économie guinéenne. Ça a été fait. Le président malien, Modibo Keïta, a lancé le franc malien. On connaît la suite. Gbagbo, le président ivoirien, avait tenté, pendant qu'il faisait face à la rébellion et pendant qu'il disait non aux forces françaises, d'établir une monnaie. La suite, on la connaît. Même Kadhafi était voilà favorable à l'Union africaine et à doter l'Afrique d'une monnaie commune. La suite on la connaît. Voilà. Cette idée a été une idée de Thomas Sankara à un moment donné de l'histoire de notre pays. La suite on la connaît. Et on sait que la France considère que pour être une grande puissance et être reconnue comme telle dans le monde, il faut contrôler ses ex-colonies. Il faut les contrôler économiquement et politiquement. Et la fin de cette domination n'est pas pour demain. Mais je dis, moi, que nous sommes aussi dans l'histoire. L'histoire n'est pas linéaire, elle est complexe. Tôt ou tard, je pense que sans l'accord de Paris, en tout cas, je pense qu'un jour, on va aboutir à cette monnaie africaine. Et la France, malgré ses moyens et sa capacité à lire à l'avance les choses, je crois qu'elle se retrouvera un jour dans l'incapacité d'anticiper quoi que ce soit. Et elle risque d'être surprise parce que de plus en plus il y a une opinion qui se dégage sur le continent africain au niveau surtout de la jeunesse et même au niveau surtout de la politique qui rejette le franc CFA et qui réclame la mise en place d'une monnaie africaine. C'est ça l'indépendance. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes indépendant et vous utilisez une monnaie qui est contrôlée par des puissances étrangères. Ça n'existe pas. On nous a fait croire que si on abandonne le franc CFA, ça sera la pagaille, ça sera le désordre, on ne va plus rien contrôler. Mais quoi? Nous avons des exemples à côté de nous. Le Ghana a sa propre monnaie, mais le Ghana n'est pas le dernier pays sur la planète. Le Nigeria a sa propre monnaie. L'indépendance commence par là. C'est donc dire que notre indépendance sont des indépendances formelles et théoriques. Dans la réalité, il n'en est rien. C'est la Banque de Paris, c'est la Bourse de Paris, de Londres et de Rome qui contrôlent nos économies avec de forts taux d'intérêt. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc, de même que le printemps arabe a surpris l'Élysée, je crois et j'ai espoir que cette révolution qui va conduire à une monnaie purement africaine, elle va surprendre encore Paris. Vous vous rappelez, la France avait octroyé au régime de Ben Ali du matériel pour la répression, pour la police. Et c'est quelques semaines plus tard qu'il y a eu le printemps arabe a débuté là-bas, qu'il y a eu la révolution tunisienne. Elle n'a pas vu venir. De la même manière, je pense qu'elle est tellement sûre de son pouvoir, voilà, trop de pouvoir aussi, je pense que ça rend aveugle. Voilà. Je pense qu'elle sera surprise. De toutes les façons, et nous, au niveau de notre mouvement, que ce soit au niveau du ballet citoyen, que ce soit au plan syndical, l'indépendance, la vraie indépendance économique et politique là, ça fait partie de nos objectifs et ça passe aussi, ça passe par le retrait pur et simple, le départ pur et simple de la zone France CFA et la mise en place d'une monnaie commune. Voilà. Et si la France même était de bonne foi, et pourquoi elle fait partie d'une union économique qu'on appelle Union européenne avec une monnaie commune, et elle s'emploie à faire en sorte que les Africains n'aient pas la monnaie commune. Mmh. Voilà. C'est parce qu'elle sait que la monnaie commune est très bénéfique pour les pays.